Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, le Muppet Show. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Vous êtes un animal. Oh oui, alors un bon, je vous entends d'ici, hein.
Je ne suis pas un animal.
Bon alors, jusqu'alors, vous avez été sauveteur sur une plage de Malibu, responsable du développement chez ABC, responsable de la création de Lost. Vous avez été Rod Serling, le créateur de la quatrième dimension, et vous avez été Batman. Alors, si je vous dis que vous allez vous glisser dans la peau d'animal, vous allez relativiser un petit peu, hein, s'il vous plaît. Vous allez être un animal tout vert, avec un col un peu semblable au Joker des jeux de cartes, un animal né d'une grande robe verte. Vous êtes une grenouille, votre nom est Kermit.
It's not easy being green, having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that.
C'est généralement dans votre bayou, sur un nénuphar, que vous chantez votre difficulté d'être vert et votre rêve d'être plus lumineux. Cette chanson, c'est une véritable ode à la différence. Vous êtes né d'une robe qui a été découpée, d'un ovale en carton qui forme la bouche et d'une balle de ping-pong coupée en deux pour faire les yeux. Votre nom si particulier vient de plusieurs sources. Un ami d'enfance, un collaborateur de travail, un ingénieur du son. Vous avez été longtemps courtisé, puis marié, à une cochonne qui vous était destinée depuis le premier jour, malgré ses excès de colère et de jalousie. Vous avez divorcé en 2015 et vous avez ensuite fréquenté une responsable marketing de la chaîne ABC, une certaine Denise, qui appartenait elle aussi à la race porcine. Votre relation a duré 6 mois. Mais la mélancolie dont vous faites preuve, seule, à vous morfondre sur votre couleur de peau, vous abandonne dès que vous allez commencer une carrière professionnelle. Vous allez devenir un meneur, un monsieur loyal, un présentateur, toujours enthousiaste et vociférant, ouais, quand vous êtes face au public. Dans ce rôle, vous allez tenter de faire régner l'ordre, l'organisation et l'efficacité dans le travail, sans jamais vraiment y parvenir. En réalité, le chaos qui règne autour de vous, bah cela ne vous dérange pas réellement, parce que vous êtes totalement solidaire des autres personnes qui travaillent à vos côtés, même s'ils vous horripilent parfois. Mais bon, ils sont tous très attachants. Et sous votre peau de crapaud, vous êtes un sentimental. À tel point que vous êtes de retour dans une toute nouvelle série. C'est sur Disney+. La série a pour titre Muppet Now. C'est pour ça que je parle de vous aujourd'hui. Vous êtes à nouveau, encore et toujours, sous le feu des projecteurs et de l'actualité. Vous avez connu un drame en 1990. La perte d'une personne à qui vous étiez très attaché. Votre alter ego, celui qui échangeait avec vous de façon permanente. Vous en êtes remis, mais la vie ne sera plus jamais la même. Mais revenons en arrière, jusqu'à votre première apparition publique en mai 1955, et à l'époque, vous n'aviez pas fini votre mue. Vous n'étiez qu'un lézard, ou quelque chose qui ressemble à un lézard. Vous avez eu ensuite la chance de vous faire connaître en apparaissant dans des talk-shows à la mode, mais votre célébrité, vous allez l'obtenir en 1969, en tenant le rôle d'un reporter, avec un chapeau mou et un micro dans la main, dans une émission pour enfants. Et là, c'est réellement le début de la gloire pour vous. Cette gloire, vous dites souvent que vous la devez à un homme, quelqu'un qui est venu à votre rencontre dans votre étang et vous a pris sous votre aile. Il a fait de vous la star que vous êtes maintenant. Cet humain, il s'appelle Jim Henson.
Bonjour, mon nom est Jim Henson et je suis un marionnettiste. Je m'appelle comme ça car je travaille avec des marionnettes. Mes personnages s'appellent les Muppets.
Jim Henson est né en 1936 dans le Mississippi. Il est donc américain et pas anglais, ce qui est important pour la suite. Il travaille et crée des personnages pour la télé locale avec un programme court qu'il invente, Sam and Friends, en 1955. C'est là qu'il met au point le prototype de ce qui sera vous, Kermit. Puis en 1963, il collabore au Jimmy Dean Show en national, où les personnages sont déjà en interaction avec le présentateur. Ces personnages, justement, ont une personnalité propre. Et on vous voit souvent bouger, même pendant les répétitions. Même quand Jim discute avec quelqu'un d'autre, un cadreur ou un technicien. Comme si vous aviez une vie propre et qu'il la respectait. La technique est d'utiliser des marionnettes à main et que les décors soient surélevés pour que lui et les autres marionnettistes puissent vous tenir à bout de bras. Et donc, en dessous du cadre de la caméra. Une main est pour la tête et la bouche. L'autre peut soit être un bras, soit tenir des tiges qui permettent de faire bouger les bras. Et les marionnettistes regardent un écran de contrôle placé au sol qui leur permet de voir tout ce qu'ils font.
Evening, you look like you could use a drink.
Yeah, I'd like a grasshopper, please.
Hey, can we have a grasshopper for the frog?
That's Kermit, Kermit the frog.
Oh, Ralph the dog here. Pleased to meet you.
Pour certains personnages comme Rolf, chien pianiste qui l'invente pour une publicité en 1962 et qui devient le partenaire de Jimmy Dean dans l'émission de variété, le Jimmy Dean Show, il fallait deux manipulateurs, un pour la tête et une des mains et l'autre pour l'autre main. Rolf d'ailleurs est non seulement le premier Muppet à connaître une célébrité médiatique, mais c'est aussi celui dont la personnalité était la plus proche de celle de Jim Henson. Sinon, le marionnettiste porte un micro fixé sur un serre-tête et donc c'est sa voix qu'on entend quand il parle. Kermit, c'est donc la voix de Jim Henson que l'on entend dans la version originale. Cela permet une grande liberté dans l'interprétation. C'est cette technique qui permet de donner la vie à plusieurs d'entre vous, Kermit. En 1969, le Children Television Workshop de la PBS, la seule chaîne publique aux États-Unis, financée par des dons et par le gouvernement fédéral, approche Henson et son équipe pour lui demander de les rejoindre dans un nouveau programme destiné aux enfants et qui leur permettrait d'apprendre des rudiments de la lecture, de l'alphabet et du calcul. Le programme s'appelle... Mais je vais vous laisser le dire à Rolf, puisque c'est vous, Kermit, qui avez eu l'idée de ce titre.
Hey, Rolf. Why don't you call your show Sesame Street? My entire career as a TV educator, nipped in the... What was that? Sesame Street. You know, like open sesame? It kind of gives the idea of a street where neat stuff happens. Kermit, why, you're a genius!
Prenant de plus en plus d'importance dans ce programme, Sesame Street, les Muppets de Jim Henson en font tout succès. À vos côtés, et aussi avec Rolf, on peut y découvrir celui qui deviendra le symbole de Sesame Street, Big Bird, une marionnette à taille humaine. Il y aura aussi, alors moi je l'adore, le Cookie Monster.
Cookie World, very educational. Yeah, 10 cookies, take away one delicious cookie.
Et puis il y a aussi Bart et Ernest. Bart, c'était Frank Oz, et Jim Henson, c'était Ernest.
Bonne nuit, Ernest, bonne nuit.
Bonne nuit, Bart.
Bien ça.
Mais Henson voulait aussi prouver que des marionnettes telles que vous n'étaient pas spécifiquement destinées aux enfants. Pour ce faire, il décroche une séquence dans le fameux Saturday Night Live.
Live from New York, it's Saturday Night!
Pour le lancement de ce nouveau show, il va donc produire Land of Gorge, un sketch qui durera toute la première saison. Pas tout à fait satisfait de cette première expérience, Jim Henson était bien décidé à lancer une série destinée à tous les publics, enfants comme adultes, et qui reposait sur les Muppets. Sur vous donc, Kermit. Il parvint donc à produire deux pilotes en 1974 et 1975 pour ABC, avec uniquement des Muppets. Vous y faites d'ailleurs une brève apparition, hein, un petit caméo en fait, hein, avec une allusion au fait que vous êtes déjà, vous, dans une émission de télé pour les enfants. Si les pilotes reposent sur le burlesque et le slapstick, le genre d'humour qui semble bien convenir aux côtés déjantés des personnages, s'il y a une nette tendance à y avoir des explosions un peu partout, boum boum boum, une sorte de violence physique qui serait évidemment interdite pour des acteurs réels, les pilotes manquent considérablement de rythme. Certaines séquences sont trop courtes, d'autres sont trop longues, les enchaînements sont inexistants, les sketchs quelquefois pas très drôles. Sans surprise, ces pilotes sont retoqués. Et le salut va venir de l'autre côté de l'Atlantique. « C'est en effet de la télévision britannique que vient l'opportunité que les Américains n'ont pas su saisir. Si vous vous souvenez du Previously qui était récemment consacré à Amicalement Vôtre, et sinon ben, vous devriez l'écouter, vous vous souvenez peut-être de l'homme qui avait donné son feu vert et avait produit Le Sein et Amicalement Vôtre, ainsi que énormément de séries en Grande-Bretagne. Son nom est Lou Grade. C'est le patron d'une chaîne privée anglaise, ITV, et surtout de sa branche de production, ITC, qui distribue ses séries dans le monde entier. Lou Grade est connu par tous ceux qui ont travaillé avec lui comme un mogul, un homme de spectacle avec son gros cigare qui prend des décisions sur la base de ce qu'il ressent, lui, et lance les projets qui pourraient marcher sur la seule base de son propre instinct. Alors, quand il découvre les Muppets, il va réagir comme nul autre n'a réagi jusqu'alors. Écoutez-le dans une interview faite pour un long documentaire de BBC qui lui était consacré.
Toutes les chaînes américaines lui avaient dit non. Moi, je l'ai vu dans le show de Julie Andrews, qui était une émission que je faisais. J'ai tout de suite pensé que c'était très nouveau, quelque chose de différent. J'ai donc voulu discuter avec Jim Henson et je lui ai dit « J'aimerais faire une série télé ». Il m'a dit qu'il essayait de le faire depuis 3 ans à la télévision américaine. J'ai répondu qu'on allait faire 24 épisodes. Et on s'est lancé.
Voilà, comme ça, dans un échange. Si cela semble totalement correspondre au tempérament du businessman anglais, il n'a pas dit cela sans réfléchir et surtout sans connaître une situation toute nouvelle qui pourrait bien lui convenir. Parce que pour que ces séries, produites à grands frais en Angleterre, soient rentables, il faut qu'elles s'exportent, qu'elles soient vendues à travers le monde entier, mais surtout aux États-Unis, qui assurent un montant particulièrement important du budget. Et justement, aux États-Unis, les règles viennent de changer. Jusqu'alors, le prime time alloué aux grands networks, pour que leurs programmes soient diffusés sur le territoire tout entier, était de 19h30 à 23h. Avant et après cette période, ce sont des programmes locaux, des news ou des jeux. Mais le prime time vient de se réduire d'une demi-heure, avec l'obligation pour la myriade de ces chaînes locales de diffuser un programme à eux, produit localement et inédit dans la partie 19h30-20h, tous les jours de la semaine. Ça partait d'un bon sentiment. Mais mine de rien, une telle contrainte devient très problématique pour des petites chaînes de pas mal de régions dans les États-Unis qui ne disposent pas assez de moyens. Arrive donc ce roublard de Lou Grade qui leur propose à chacune d'entre elles, et elles sont des centaines, un programme produit en Grande-Bretagne et formaté en une demi-heure. Genre l'aventurier ou poigne de fer et séduction. Et réunir une série mêlant comédie et variété semble être l'idéal pour réunir la famille tout entière à 19h30. D'autant que Lou Grade a eu une carrière de showman dans le vaudeville à ses débuts. Donc il est forcément conquis par une émission de ce type. De plus, l'Angleterre est le pays des Monty Python et l'humour absurde, destructeur et ravageur des Muppets s'y glisse comme dans un gant.
Thank you everybody, we'll see you all next time on the Muppet Show!
Si, en plus des Muppets, il y avait l'attrait d'une guest star de prestige qui serait le seul personnage humain au milieu de tous les Muppets, ben ça pourrait bien fonctionner. Et le coût particulièrement élevé pour un programme de ce type, 250 000 dollars par émission, eh ouais, 250 000 dollars ne pourrait être rentabilisé que si Grade parvient à vendre le programme à assez de chaînes. Mais déjà, Abe Mandel, le représentant américain de ITC, était parvenu à convaincre les chaînes locales opérées par la CBS d'avoir le Muppet Show dans cette fameuse tranche de 19h30. Ce groupe de chaînes assure une diffusion de part et d'autre du territoire. Alors, toute l'équipe de Henson part pour Londres et s'installe dans les studios d'Estrie à Boreham. Bon, il garde bien sûr un atelier à New York pour la construction des marionnettes, autant pour la nouvelle série que pour Sesame Street, mais ils mettent en place à Estrie un autre atelier où, une fois reçu, on pourra faire des retouches aux marionnettes. Il y avait aussi des Muppets sans forme, sur lesquels on pouvait fixer bouche, nez et yeux pour en faire un personnage différent à chaque fois. Comme avec toutes ses précédentes productions pour ITC, Lou Grade n'intervient pas. Il ne s'immisce pas dans le processus créatif. Il ne lit pas le scénario. Il fait une confiance totale et absolue à Jim Henson. Les témoignages de l'époque parlent d'une véritable admiration et d'une révérence pour Henson et d'une très grande fierté de la part de Lou Grade d'avoir produit la série.
It's the Muppet Show!
En En janvier 1976, Jim Henson va donc produire les deux premiers Muppet Show qui serviront à la force de vente et à le goued pour convaincre les télévisions du monde entier d'acheter la série. Et principalement les chaînes américaines donc. Ernie et Bart de Sesame Street y font même une petite apparition. Bon, ils apparaîtront aussi bien plus tard lors de la dernière saison aux côtés de Marty Feldman. Le premier de ces deux Muppet Show a pour invité du jour l'actrice Connie Stevens et le deuxième, la chanteuse Juliette Prose. Dans chacun d'entre eux, la vedette invitée apparaît assez peu et ne fait qu'un seul numéro. Mais qu'importe, les deux émissions sont produites, les semaines s'écoulent et en mars 1976, le feu vert est donné. La production de la première saison peut commencer. La partie la plus difficile repose sur les épaules de David Lazer, qui est le producteur exécutif de la série, en charge de toute la structure financière, mais aussi en charge de la partie vedette invitée du show. La guest star est la personne la plus cruciale de la série. Bon, sans vouloir te manquer de respect, Kermit, hein, mais c'est quand même la vedette de l'épisode qui fait que les gens reviennent, semaine après semaine, pour voir ce qu'une célébrité va bien pouvoir faire avec les Muppets dans l'épisode. Car en effet, l'idée était que la plupart des invités fassent ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Chanter, s'il s'agissait d'un acteur, faire un numéro dansé, s'il était une chanteuse, ou un sketch comique, s'il était chanteur, et ainsi de suite. Et pour cette première saison, tenter de convaincre des vedettes internationales de venir à Londres pour jouer avec des marionnettes dans une émission qui n'était même pas encore à l'antenne, c'était franchement une vraie gageure. Lazer et Lou Gwaed ont alors sorti leur carnet d'adresses et ont demandé à des amis de leur rendre ce service. Débarque donc Joel Grey, qui sera le premier diffusé aux États-Unis, Ruth Boozy, Jim Nabors, mais c'est Rita Moreno dans le sixième épisode qui va mettre le feu à la série. Sa prestation lui vaudra un Emmy Award et son sketch avec le batteur fou Animal, où elle tente de chanter Fever, est devenu mythique. Dans cette première saison vont aussi apparaître Peter Ustinov, Lena Horne, Candice Bergen, Twiggy, Ben Veren et Vincent Price. Et Charles Aznavour y débarque aussi dans un épisode chargé d'émotions. Les vedettes invitées étaient rémunérées, mais de façon très raisonnable, quel que soit leur standing. Mais elles étaient par contre reçues comme des stars. Voyage en première classe, grand hôtel, limousine pour les emmener en studio, enfin vraiment la grande classe.
It is I, Boris, with his sobbing violin. Do you got any requests?
Yes, but you're gonna play.
En saison 2, les superstars commencent à arriver, comme par exemple Peter Sellers, qu'on entend actuellement, Julie Andrews, Elton John et George Burns. Il y avait aussi Ed Bergen, John Cleese, Milton Berle, Steve Martin, mais celui qui a fait tout basculer, c'est Rudolf Nureyev. Il accepte donc de jouer aux côtés de Miss Piggy, de danser le lac des cochons, bon, plutôt que le lac des cygnes, et surtout de faire un numéro de claquette.
Trust me, Sam. You see?
C'est un coup majeur qui résonna jusqu'aux États-Unis. D'avoir Rudolf Nureyev demande 6 mois de discussion, mais fait entrer la série dans la catégorie des shows à la mode. Les shows qu'il faut faire. Et Nureyev en profite pour faire ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, ce qu'on lui demande jamais de faire. Dès lors, de Liza Minnelli à Diana Ross, de Sylvester Stallone à Raquel Welch, de Christopher Reeves à Roger Moore, de John Baez à l'équipe de la Guerre des Étoiles, on se presse pour venir chez les Muppets de Jim Henson. Bon, pour être parfaitement franc, Sesame Street, le programme pour l'éducation des enfants qui a précédé le Muppet Show, et qui se poursuit d'ailleurs toujours, accueille aussi son lot de vedettes de prestige. De Robert De Niro à Nathalie Portman, en passant par des vedettes télé comme Juliana Margulies et Sarah Jessica Parker, avec aussi Hugh Jackman et Michelle Obama. Bon, évidemment, la bonne idée est aussi de jouer sur les deux facettes d'un show. Le spectacle dans le théâtre des Muppets, le Benny Vandergast Memorial Theater, dont l'oncle de Scooter est propriétaire, ça aide, mais aussi les coulisses du spectacle, la panique de Kermit, de vous donc, les rivalités pour que les numéros puissent se faire, les échanges entre les Muppets qui s'apprêtent à monter sur scène.
And now, ladies and gentlemen, a musical highlight, our drummer Animal sings Gershwin.
Et oui, Kermit, vous êtes devenu la star de la télé, vous et toute votre équipe, parce que vous n'êtes pas seul, loin de là. Alors j'ai cité Rolf, le chien pianiste. Il y a Fonzie, l'ours qui tente désespérément de faire son stand-up, mais qui est quand même un comique raté, il faut bien le dire.
Ladies and gentlemen, Fozzie Bear!
Thank you!
Il y a Gonzo et ses cascades qui tournent mal. Il y a Waldorf et Statler, les deux vieux ronchons qui démolissent sans cesse les Muppets, mais pourtant sont bien présents à chaque émission depuis leur loge au balcon du Muppet Theater.
Ils pourraient drôlement améliorer le show en changeant la fin.
Comment ça ?
En la mettant plus près du début.
Et surtout, surtout, il y a votre amoureuse, votre dulcinée, votre promise Kermit, la ravageuse, la stupéfiante, la volcanique Miss Piggy.
Kermitou, j'ai oublié de parler du sketch que je dois jouer.
Ah ben non, j'ai pas oublié, mais j'ai pensé que ce n'était pas important.
J'ai pas compris.
Eh ben non, en fait, c'est important, en fait, c'est pas très important. Sincèrement, ce n'est pas une question de vie ou de mort.
T'en es vraiment certain?
C'est Frank Oz, l'associé de Jim Henson depuis 1963, qui est Miss Piggy, et qui fait graduellement un personnage assez mineur, une véritable diva superstar, une parodie des vedettes capricieuses et mégalomaniaques qui peuplent le monde du spectacle.
Hello, Kermit.
Oh, hi, Piggy.
Here I am. What now, my love?
Piggy parle de moi en français dans le texte, et elle a un tempérament explosif. Frank Oz avait poussé le luxe jusqu'à lui écrire une vraie petite bio qu'il a donnée au scénariste. Alors, Piggy est née dans une petite ville, sa mère était assez méchante à son égard, et elle a dû faire des concours de beauté pour survivre, etc., etc. Vous voyez jusqu'où est poussée l'abnégation à votre égard, Kermit. Et la personnalité de Piggy est définitivement clairement établie quand elle se met assez systématiquement à balancer des coups de karaté à toutes celles et ceux qui l'embêtent. Vous y compris. L'association entre Jim Henson et Frank Oz fonctionne à merveille. On peut s'en rendre compte quand on voit les sketchs avec le chef suédois. Un chef qui ne parle pas vraiment suédois. Il est manipulé par les deux en même temps, en parfaite synchronisation l'un avec l'autre. Jack Burns avait en charge l'écriture de la série pour sa première saison. Jerry Jewell, un ancien marionnettiste qui avait rejoint l'équipe, devient le scénariste en chef pour la suite. Il était accompagné de Don Hinckley, qui était un scénariste assez réputé pour les programmes de variété, et de Chris Langham, un scénariste et acteur anglais qui apportait la touche absurde et Monty Pythonesque à la série. Chaque épisode était écrit environ 2 mois avant le tournage. Quand la semaine du tournage arrivait, le premier jour était une lecture du script par toute l'équipe, exactement comme pour n'importe quel sitcom. Il y avait le lendemain l'enregistrement des chansons, puis les jours suivants, répétition et tournage pour le réalisateur, qu'il s'agisse de Peter Harris ou de Philip Kazin, qui travaillait en alternance.
And now, Veterinarian's Hospital.
Et évidemment, parmi les sketchs, il y avait des parodies d'émissions de télé, comme les vétérinaires à l'hôpital, la version Muppet des soap-opéras quotidiens, et plus spécifiquement du vénérable General Hospital, précis jusqu'à la musique interprétée à l'harmonium qui était de rigueur à l'époque. Bon, il y a la scène du dancing, et il y avait aussi la célèbre parodie de Star Trek.
And now, pigs in space! Featuring the redundant Captain Link Hogthrob, the arbitrary first mate, Miss Piggy.
Avec donc Miss Piggy et le capitaine Jean Bondiork aux commandes du SS Swine Trek, le transporcherie. Et c'est dans cette séquence que les vedettes invitées d'un des épisodes sont illustrées. R2-D2 et C3PO, Chewbacca et surtout Mark Hamill, alias Luke Skywalker.
Ah, it is I, the princess. Look, it's the princess.
Doesn't look like a princess to me.
Watch it, hardware.
Le Muppet Show est un succès phénoménal, au-delà des espérances de Jim Henson ou de Luke Wade. La série réunit 235 millions de téléspectateurs à travers le monde, car elle est vue dans plus de 100 pays. Elle remporte un Emmy Award en 1978 en tant que meilleure série comique et de variété et totalisera 21 nominations et 3 autres victoires dans différentes catégories au fil de ses 120 épisodes. Alors que la série est toujours en production, le film « Les Muppets, ça c'est du cinéma » est produit en 1979 et remporte un grand succès. Ce sera le premier d'une série de films allant de « La grande aventure des Muppets » au « Muppets à Manhattan », des téléfilms aussi, et d'autres séries comme la série animée « Muppets Babies ». Série animée coproduite par le département production télé de la Marvel en 1984 et qui montrait l'enfance des différents personnages du Muppet Show. Très populaire, la série animée dure 8 saisons, 107 épisodes et connaît un remake en 2018. Si le Muppet Show est devenu aussi incontournable, c'est grâce à toutes ses qualités que l'on vient d'énoncer, mais aussi grâce à ses multiples techniques d'animation de marionnettes et aux constantes innovations qui parsèment séries et films. Si vous allez revoir, par exemple, sur Disney+, le premier film de Muppet, vous verrez la stupéfiante scène où vous, Kermit, êtes en train de faire du vélo. Et pour nous parler de ce que Jim Henson a aussi apporté dans ce domaine bien précis, quel précurseur avant-gardiste il était dans le domaine des effets spéciaux, j'ai le très grand plaisir d'accueillir pour ce podcast un ami de longue date, qui est la référence française dans le monde des effets spéciaux. Croyez-moi sur parole, il a écrit la Bible mondiale sur le sujet, le livre de référence, un pavé énorme, effets spéciaux, 2 siècles d'histoire. Un livre absolument indispensable, dans lequel on parle non seulement des trucages du cinéma, mais aussi de ceux de la télévision, à chaque fois dans des chapitres dédiés, énormément de photos et avec des interviews des plus grands spécialistes. Il a aussi créé un site web consacré aux effets spéciaux, effets-spéciaux.info, qui traite l'actualité des films et des séries fantastiques et de science-fiction. J'ai donc le grand plaisir de recevoir Pascal Pinto. Salut Pascal.
Bonjour Alain.
Bon, alors il ne manque plus à ma présentation que des roulements de tambour, hein, comme au début du Muppet Show, mais il faut avouer qu'il sera à la hauteur de ton expertise. Tu consacres plusieurs pages de ton livre à Jim Henson, au milieu des Willis O'Brien, des John Dykstra et autres Douglas Trumbull, des maîtres en effets spéciaux. Alors c'est franchement à ce point-là, le travail de Jim Henson sur ces séries a été si fondamental que ça?
Oui, le travail de Jim Henson a été vraiment exceptionnel. Qu'il s'agisse des émissions auxquelles il a participé, puis de ses séries, ses films et de tous ses autres projets. Jim Henson, c'est véritablement le Walt Disney de la marionnette. Tout comme le grand Walt a révolutionné le dessin animé, développé des trucages ambitieux pour ses films d'aventure comme 20 milieux sous les mers, puis les premiers personnages robotisés pour animer ses attractions de Disneyland dès 1964, Jim Henson a exploré toutes les techniques et matériaux modernes et mis en place une recherche permanente d'innovation, de nouveaux moyens pour faire vivre ses marionnettes. Il faut préciser aussi qu'à la télévision américaine, avant l'arrivée des Muppets, on avait surtout l'habitude de voir 2 types de marionnettes. Les pantins, comme Charlie McCarthy, présenté par le ventriloque Edgar Bergen, et les marionnettes à fil, comme le petit cow-boy Howdy Doody, vedette d'une émission pour enfants si populaire qu'elle a duré de 1947 à 1960 sur NBC et a été à l'origine de nombreux jouets et produits dérivés. Howdy Doody a d'ailleurs inspiré le cowboy Woody dans la saga Toy Story de Pixar. Les créations de Jim Henson, elles, sont radicalement différentes dès le début parce qu'elles sont conçues autour de la forme d'une main et construites à base de feutrine ou de moustaillée pour pouvoir se déformer, grimacer et changer spontanément de mimique. Et c'est justement parce que ce ne sont pas des puppets comme les autres que Jim Henson décide de les appeler des Muppets, contraction de marionnettes et puppets, pour bien souligner leur originalité.
It's a funny thing. Sometimes you laugh and sing.
Sometimes you grumble and cuss.
Dans l'interview que tu publies dans ton livre, Jim Henson confie bel et bien que si Miss Piggy est devenue un personnage aussi extraordinaire, c'est grâce à son interprète, Frank Oz. On ne parle pas seulement de marionnettiste, mais d'interprète. C'est crucial et ça le reste pour toutes les nouvelles incarnations des Muppets, non?
Oui, et c'est la traduction que Jim Henson et son épouse Jane ont instaurée dès les débuts, en formant les marionnettistes venus rejoindre leur équipe afin qu'ils soient les incarnations des personnages qu'on leur confiait et qu'ils les animent en leur prêtant aussi leur voix. Cette organisation n'a pas varié au fil des ans. Parmi les manipulateurs principaux de la troupe, Chacun ne s'occupe que de quelques Muppets, mais ce sont leurs personnages attitrés qu'ils connaissent par cœur et avec lesquels ils peuvent improviser aisément en les faisant vivre avec une vivacité et un sens de la répartie digne des comiques de stand-up. Quand un présentateur ou une célébrité dialogue avec Kermit ou avec Rolf, le chien pianiste, il éclate de rire car, même si le texte a été répété avant, le personnage sait le surprendre en lançant de nouvelles plaisanteries. Cette spontanéité va devenir la marque de fabrique des Muppets lorsqu'elles vont dialoguer avec des vedettes. Et si Jim Henson m'avait parlé de manière si élogieuse de Frank Oz, c'est parce que il a été son partenaire le plus proche, l'un des plus drôles et des plus talentueux, et aussi son meilleur ami. Frank Oz a donné vie à plusieurs des personnages les plus emblématiques du Muppet Show, Miss Piggy bien sûr, mais aussi l'ours Fozzie, Animal le batteur, et le très patriotique Sam l'aigle. Idem pour Sesame Street, à la rue Sésame, où il était Bart face à Ernest animé par Jim Henson, ainsi que Grover et l'hilarant Cookie Monster qui s'empiffre de gâteaux en projetant partout des miettes.
Ah ouais, des gâteaux, gâteaux. Après le Muppet Show, Jim Henson et son Creature Shop ont pu laisser exploser leur imagination dans deux films, Dark Crystal et Labyrinthe. Le premier étant devenu culte et vient de susciter une version série extrêmement fidèle. Et Jim Henson a continué à explorer son art dans une autre série télé innovante en 1988, The Storyteller, d'après une idée de Lisa Henson, la fille de Jim, basée sur des vieilles légendes et réalisée par des gens qui viennent du clip, comme Steve Barron, qui met en scène John Hurt, dans le rôle titre, mais surtout une corde de marionnettes et d'animatronics pour raconter des histoires quelquefois assez sombres et plutôt horrifiques.
C'est pour préparer Dark Crystal qu'est fondée la Jim Henson's Creature Shop dès 1979, soit 3 ans avant la sortie du film, tant le travail à accomplir allait être complexe à concrétiser. Mais cet atelier a jeté les bases qui allaient servir à créer tous les projets suivants, dont The Storyteller, intitulé « Monstres et merveilles » en France. Il faut cependant préciser que, dès les années 70, de nouvelles techniques avaient été mises au point pour animer des personnages comme le gigantesque Big Bird de Sesame Street. L'oiseau jaune de 2,49 m est interprété par Carol Spinney, caché à l'intérieur du costume. Le bras gauche de Spinney anime la tête de Big Bird et sa main droite l'aile droite. Comme son champ de vision se limite à une petite fenêtre de tulle jaune, en partie dissimulée par des plumes, on lui fixe un petit moniteur télé sur le ventre pour lui permettre de se déplacer en voyant ce qui l'entoure. Pour Dark Crystal, qu'il co-réalise en 1982 avec Frank Oz, Jim Henson veut aller bien plus loin. Il tient à ce que tous les personnages du film soient des marionnettes, et comme le producteur Gary Kurtz me l'avait confié, c'est la raison pour laquelle les personnages quasi-humains des Gelflings, les héros du film, ne sont pas joués par des enfants maquillés ou des acteurs de petite taille, alors que cela aurait énormément facilité le tournage. Les équipes de la Creature Shop fabriquent donc des mécanismes sophistiqués pour actionner les mouvements additionnels des créatures. Des câbles métalliques coulissant dans des gaines et reliés à des gâchettes, une transposition du fonctionnement des freins de vélo, permettent d'animer les doigts des mains ou les expressions faciales des personnages. Les horribles Skeksis du film, sorte de crocodiles en tenue courtisan, sont dotés de servomoteurs radiocommandés qui animent leurs yeux et leurs paupières à distance, tandis que les 2 à 3 manipulateurs cachés sous leurs grandes robes se concentrent sur leurs mouvements corporels. Cet énorme investissement de travail de la Creature Shop s'épanouit ensuite dans la série Monstres et Merveilles, donc de 1987 à 1989, qui va être prolongée par les légendes grecques. Diablotins, lions blancs, géants, gorgones et minotaures apparaissent tout au long de cette production dont Jim Henson était particulièrement fier. Comme tu le disais Alain, John Hurt incarne le narrateur de la première saison de 9 épisodes, tandis que Brian Henson, le fils aîné de Jim, anime le fidèle toutou qui dialogue avec son maître et l'écoute attentivement. Dans la seconde saison de 4 épisodes, Michael Gambon joue le conteur grec prisonnier d'un labyrinthe, qui est le nouveau narrateur, mais accompagné par le même chien. Monstres et Merveilles revient aux sources originales des récits, mis en scène de manière inventive, notamment par Steve Barron, dont tu parlais, mais aussi par Jim Henson lui-même, et, au niveau de l'écriture, adapté par Anthony Minghella, futur réalisateur du Patient anglais. Les créatures mythiques prennent vie grâce à des maquillages et des marionnettes animatroniques splendides, comme on n'en a encore jamais vu sur le petit écran.
Bon, je ne l'ai pas encore mentionné jusqu'alors, mais il a aussi produit une autre série pour enfants, Fraggle Rock, en 1983, avec un usage massif de ce qu'on appelle le chroma key, à savoir l'incrustation électronique via un fond bleu. Bon, je parle sous ta supervision, hein, Pascal, mais aussi avec des personnages de marionnettes dans des engins de chantier, etc. etc.
Oui, Alain, Fraggle Rock présentait aussi des innovations très intéressantes, car aux côtés des Fraggles, représentés par des marionnettes à main, et des énormes gorgues, joués par des manipulateurs costumés, il y avait le petit peuple des Doozers, infatigables constructeurs de structures transparentes, toujours affairés à développer leur chantier. Comme ces minuscules personnages ne pouvaient être animés que par l'intermédiaire de mécanismes, l'équipe de la Creature Shop en a créé de nombreuses versions, avec les servomoteurs radiocommandés les plus petits disponibles à l'époque, ou de minuscules engrenages internes permettant de les faire marcher par groupe de quatre pendant qu'ils transportent des poutres, par exemple. Une autre astuce consistait à fixer un doozer au niveau des hanches à un camion de chantier et à animer un mouvement de marche synchronisé à la vitesse de l'engin. D'autres versions étaient animées par des tiges peintes en bleu qui disparaissaient lorsque les personnages étaient ajoutés dans l'image par le procédé d'incrustation électronique que tu évoquais, Alain, et qui s'est perfectionné énormément pendant les années 80 aux États-Unis, permettant de réaliser des trucages sans parasites ni lignes de contour apparentes.
Et il faut mentionner que dans la version française de la série, le personnage humain de Doc, qui changeait dans chaque pays où Fraggle Rock était diffusé, était incarné par l'acteur Michel Robin, un acteur récemment décédé. Le développement et l'usage des techniques et effets spéciaux par Henson est tout simplement énorme. Et cela a attiré l'attention d'un certain George Lucas, car un des plus grands personnages de la saga Star Wars n'est plus ni moins qu'un Muppet lui aussi.
C'est tout naturellement Frank Oz que Jim Henson a recommandé à George Lucas lorsqu'il l'a contacté en 1979 pour animer Yoda dans l'Empire Contre-Attaque. Lucas dira d'ailleurs plus tard qu'il était très anxieux avant le tournage, ne sachant pas si cela allait fonctionner ou tourner à la catastrophe, mais qu'il avait été rassuré dès la première prise grâce à l'interprétation géniale de Frank Oz et à la voix qu'il avait inventée pour le vieux maître Jedi. Précisons que c'est le grand maquilleur anglais Stuart Freeborn qui a sculpté et entièrement fabriqué la marionnette de Yoda, tout comme il a créé le fameux Chewbacca.
Le 16 mai 1990, Jim Henson, donc ton papa, Kermit, meurt d'une infection bactérienne fulgurante qu'il avait omis de soigner. Sa perte est immense, mais son entreprise perdure. Son atelier continue de créer des personnages, entre autres pour des séries comme Farscape, et pour une attraction que Henson avait initiée juste avant sa mort, Muppet Vision 3D.
C'est en 1991, un an après la disparition de Jim Henson, qu'est dévoilé l'ultime projet conçu et réalisé par ses soins. L'attraction Muppet Vision 3D, présentée dans le parc Disney's Hollywood Studio de Walt Disney World, en Floride, que j'ai eu la chance et le plaisir de voir plusieurs fois. Je l'adore parce que c'est vraiment un bijou d'humour et de créativité scénographique, qui est d'ailleurs présenté dans une grande salle de cinéma à l'ancienne, avec une scène, une fosse d'orchestre et des balcons sur les côtés de l'écran, où apparaissent les vieux critiques Waldorf et Stadler, mais en version animatronique. Quand la projection 3D débute, tout un orchestre de pingouins, robotisés eux aussi, surgit de la fosse pour jouer la musique du film en même temps. Et sur le grand écran, Kermit, Fozzie et toute leur fine équipe sont occupés à tourner une comédie musicale en relief. Les catastrophes s'enchaînent et multiplient les interactions de plus en plus délirantes entre le film, les mopettes robotisées de la salle et les décors truqués, puisque les murs sont troués par des tirs de canon et qu'une marionnette géante animée par un comédien surgit au milieu des spectateurs. Près de 30 ans après son inauguration, Muppet Vision 3D n'a rien perdu de son impact comique et enchante toujours les visiteurs des Disney's Hollywood Studios. Et c'est certainement le plus bel hommage que l'on pouvait rendre au Muppet Show et à l'œuvre de Jim Henson.
Eh bien, merci Pascal, c'est toujours un très grand plaisir de t'entendre. Je rappelle que, pour en savoir plus, ton livre « Effets spéciaux, deux siècles d'histoire » est absolument indispensable. C'est la référence ultime en la matière. C'est ensuite Brian Henson qui est à la tête de l'entreprise depuis le décès de Jim Henson. Et Steve Whitmire est devenu ton nouvel interprète, Kermit. Jusqu'à son renvoi en 2017 à cause d'un comportement qu'on a jugé démesurément irrévérencieux à l'encontre de son regretté patron et en opposition systématique avec les nouveaux dirigeants. C'est dorénavant Matt Vogel qui est toi.
It's Muppets Tonight with our very special guest star, Michelle Pfeiffer. Yay!
Une nouvelle série des Muppets a vu le jour en 1996, Muppet Tonight. Et cette série a la même structure, elle mélange un spectacle avec ses coulisses. Mais cette fois-ci, on n'est plus dans un théâtre, mais dans un studio de télévision. Et c'est Clifford, avec ses dreadlocks, qui anime la série, accompagné de plusieurs guest stars, de Billy Crystal à Prince. Bon, en tout cas, le chanteur précédemment connu comme Prince.
Now, what can I do for you?
I'm guest starring on the show tonight.
Uh-huh, and your name, sir?
This is gonna be fun. I'm the artist formerly known as Prince.
Ooh, and I'm the bear currently known as Not Amused.
La série a connu 22 épisodes sur la chaîne ABC. En 2015, c'est Bill Prady, ancien collaborateur de Jim Henson, scénariste de plusieurs épisodes des Muppet Babies, devenu ensuite producteur de The Big Bang Theory, qui fait revivre les Muppets dans une version sitcom, toujours pour la chaîne ABC. Et c'est un projet qu'il avait déjà lancé en 2005. Mais alors que la précédente série était un détail dans la programmation, cette nouvelle version a droit aux gros titres et aux couvertures de magazines. Les Muppets entre dans l'ère moderne. Car cette fois encore, non seulement la série est écrite comme n'importe quel sitcom, mais elle met en scène à la fois la vie publique et privée de ses vedettes en utilisant aussi le ressort de l'interview face caméra que l'on voit déjà dans The Office et dans Modern Family.
Our new show is called The Muppets.
You know, all your favorite Muppets are back. Fozzie, Gonzo, Miss Piggy, Pepe, Animal. I work with my ex-girlfriend, so multiply messy times a thousand. Just because you have...
As you may have heard, Kermit and I are no longer an item.
Peggy,
leave me alone!
Eh oui, vous avez bien entendu. La série parle de votre divorce avec Piggy, qui est pourtant la star d'un talk show de fin de soirée que vous devez produire, Up Late with Miss Piggy. Même si cette série n'a duré qu'une seule saison, moi je vous la recommande. Elle est disponible sur Disney+. Tout comme la nouvelle série Muppet Now, lancée en juillet, et qui vient d'être intégrée à la version française de la plateforme. Là encore, si vous et les autres Muppets en êtes toujours les vedettes, c'est dans le cadre de vidéos que l'on vous retrouve, telle Piggy devenue influenceuse beauté avec son blog Lifestyle with Miss Piggy, face à des invités comme RuPaul ou le jeu mettant en compétition le chef suédois avec d'autres chefs.
Hey guys!
Oh hi, hi!
It's gonna be wild and funny. And it's going to feature some new friends. Friends like...
No details about celebrity guests or content may be proffered at this juncture.
But, Joe, look, I was just going to show everyone...
I thought whoa, over my dead legal briefs.
You look gorgeous, by the way.
Thank you. I wasn't fishing, but I'll take it.
What can I say? The Muppets are getting together to make some fun things for Disney Plus? Is that what you want me to tell everyone?
Perfect.
What do you mean perfect?
Bon, alors pour être parfaitement franc, on va passer un peu sous silence la version française des Muppets en 2006. Elle reprenait les personnages et a été produite par Koei, qui faisait aussi votre voix, mais pas votre animation. Non, par contre, on va laisser la parole à votre voix, Kermit, à celui qui a été vous, et qui a été indissociablement lié à vous.
Merci, merci, n'en rajoutez pas. Bienvenue au Muppet Show.
En 2009, Roger Carrel a répondu aux questions de Romain Nigita à propos de vous, Kermit, et de sa réaction quand on lui a proposé d'être la voix d'une grenouille.
Bon, écoutez, moi, c'est une maison pour laquelle je travaillais et on me faisait toujours des bonnes surprises, j'avais toujours des personnages savoureux à doubler. Et là, c'était tout nouveau. Évidemment, on nous précisait que c'était une série tout à fait inhabituelle, qui allait être un peu déroutante. Et je veux dire qu'on ne savait pas très bien ce que ça allait donner. On disait, les Anglais en sont friands, ça marche très bien, mais nous, comment les Français vont réagir? Il y a des personnages tellement fous, tellement à côté de la plaque, que peut-être le public français n'acceptera pas. Et puis on a fait le test, mais le test s'est révélé non seulement une victoire, mais extraordinaire, une victoire financière aussi pour la société. Ah oui, ça a été, je pense que les cinq, vous le diront, Hernandez, Lax ou Tornade, vous diront eux-mêmes, si vous les avez au bout du fil ou si vous les voyez, vous diront, oui, ça a été des années bonheur. Ça a été, je pense, 4 ans, peut-être même un peu plus, où la joie de se retrouver une fois par semaine pour doubler de cette série, c'était toujours... Oui, parce qu'on se réservait des petites surprises. On se faisait des blagues dans l'enregistrement, on changeait un peu le texte pour voir comment réagissaient les copains. Et bon, ben, c'est-à-dire que le producteur était toujours d'accord.
Et ça passait toujours, parce que des fois, il fallait quand même s'arrêter et reprendre parce que...
Ah oui, bien sûr. Ah non, mais attention, on avait beaucoup de fou rire. On faisait souffrir beaucoup Micheline Dac, la petite Micheline. On l'avait un peu martyrisée au micro, je peux vous le dire, plusieurs fois. D'ailleurs, elle fait semblant de s'en plaindre, mais je crois qu'elle était ravie, en fin de compte.
Eh ben, on va l'entendre de la bouche de Micheline Dac, que Romain veut aussi rencontrer ce jour-là.
Moi, je veux bien vous le dire, mais je l'ai tellement dit, n'est-ce pas, Roger, par là, il va encore entendre. C'est lui qui m'a appelé, Roger Carrel, avec qui j'avais fait déjà beaucoup, beaucoup de choses, hein. Il m'a appelé en me disant, voilà ma grande, on nous propose une série de marionnettes révolutionnaires, le terme n'est pas trop fort. Il y a là-dedans un personnage de grosse cochonne, folle de son corps et dont personne ne veut, on a pensé à toi. Et j'ai dit, d'accord. Voilà, c'est parti le plus normalement du monde.
Oh, lumière de ma vie, grenouille de mon cœur, enfin nous sommes seuls.
Ah non, toi tu vas te retrouver toute seule, moi je vais paraître sur scène devant des milliers de gens.
Quelle honte. Ah, que c'est dur pour une belle cochonne à la fleur de l'âge d'être aussi dédaignée. Ah.
Voilà Kermit, on a fait le tour de ta vie. Qui se poursuit encore de nos jours, hein, avec cette nouvelle série, et puis les films où tu as joué. Et tout cela parce qu'un jour, un homme t'a créé, à partir d'une robe et d'une balle de ping-pong. Et de la vie de la plupart des vedettes qui ont participé au Muppet Show, le grand secret est que vous n'êtes pas des Muppets. Vous êtes une extension des comédiens qui vous animent. Leur voix, leurs gestes, leur attitude, c'est vous. Ce sont des acteurs avant tout, avant d'être des marionnettistes, comme le soulignait Pascal tout à l'heure. D'ailleurs, les vedettes s'adressent à vous, Kermit, à vous et pas à celui qui est en dessous de vous. Il ne parle pas à ses chaussures, mais il vous regarde droit dans les yeux, et cela même quand la caméra s'arrête de tourner. C'est même d'ailleurs assez déstabilisant par moments. Certains se rendent compte que là, ils sont en train de parler à un crapaud, et pas à Jim Henson qui est en dessous. Pascal a aussi fait le rapprochement. Disney a développé l'art de l'animation et Jim Henson a développé l'art de la marionnette. Chacun l'a rendu populaire et a touché des millions de gens. Chacun s'est trouvé à la tête d'une entreprise. Et voici l'hommage ultime que l'on pouvait rendre à ton créateur, Kermit. Il vient de la part de celui qui a représenté Walt Disney en France pendant des années à travers une émission, l'ami public numéro 1. J'avais recueilli ses propos en 1994.
Mon estime, mon admiration, mon affection, elle va surtout au Muppet Show de Jim Henson. C'est un nom inconnu. Jim Henson est mort il y a un an à peu près. Les journaux lui ont consacré 2 lignes. Et pourtant, c'est un grand créateur. Il avait participé à l'équipe de création de Sesame Street qui révolutionna l'éducation par la télévision chez les anglo-saxons. Muppet Show, c'est un spectacle de finesse, de drôlerie, d'invention. Ce que j'aime, moi, dans nos métiers, c'est avant tout ceux qui inventent et non pas ceux qui recopient ou ceux qui savent faire. Et Jim Henson était de ceux-là, des grands créateurs.
Who said that every wish would be heard and answered when wished on the morning?
Merci, Monsieur Tchernia. Voilà Kermit. On va te laisser dans ton étang à chanter tes balades au banjo. Tu as eu de la chance, hein, quand même. Tu as été créé par le Disney de la marionnette. Et tu vas pouvoir encore et encore être présent dans les programmes. Allez, salut la grenouille, hein, salut le crapaud. La semaine prochaine, on fêtera ensemble le retour des Boulets, des Le Pic. Et on vous racontera cette grande saga française que fut « Fais pas ci, fais pas ça ». Ce podcast est disponible en avant-première sur l'application Audio Now, puis sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast. Fais pas ci, fais pas ça.